Introduz o valer de Silvestre Bijuit. Car vous n'êtes pas venu à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant, ni à l'obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, ni au son de la trompette, ni à la voix de parole, voix telle que ceux qui l'entendaient prièrent que la parole ne leur fût plus adressée, car ils ne pouvaient supporter ce qui était enjoint. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et Moïse, si terrible était ce qui paraissait, dit, je suis épouvanté et tout tremble. Mais vous êtes venu à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et à des myriades dans l'Assemblée universelle, et à l'Assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au saint d'Aspersion, qui parle mieux qu'Abel. Prenez garde que vous ne refusez pas celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent celui qui parlait en oracle sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre. Mais maintenant, il a promis, disant, encore une fois, je secourrai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce « encore une fois » indique le changement des choses nuables comme ayant été fait, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte, car aussi notre Dieu est un feu consumé. Jusqu'ici la parole, la lecture de la parole. Une expression dans le cantique m'a frappé, du souverain pasteur, goûtant la grâce immense. Cette épître est une épître qui nous présente cette grâce immense. Le mot grâce revient 8 fois dans cette épître et ça souligne le nouvel ordre que Dieu a introduit. C'est aussi une épître d'encouragement, d'exhortation, on verra dans le chapitre 13, mais d'encouragement. Et Dieu sait comment encourager. Dieu est le Dieu d'encouragement. On le sait dans 2 Corinthiens 1, verset 3, il est le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Le mot consolation veut dire aussi encouragement. Dieu est le Dieu de tout encouragement. Et ainsi, cette épître d'encouragement nous présente une personne. Dieu nous encourage en nous présentant la personne du Saint Jésus, sa perfection, comment il est suprême comparé avec toute autre personne. On a vu cela dans cette épître. Comment son œuvre est suprême et merveilleux et efficace. On a vu cela dans chapitre 9 et 10. Et ensuite, on a commencé à voir comment le Saint Jésus présentement est notre grand conducteur, sur la base du fait qu'il est la personne la plus grande, qu'il a accompli une œuvre merveilleuse, l'œuvre la plus grande, il est maintenant aussi le plus grand conducteur. Et cela à 3 égards. Nous avons vu au chapitre 10, il nous introduit dans le ciel. Déjà maintenant, par la foi, nous avons un accès direct pour être dans la présence de Dieu. Et c'est par le Seigneur Jésus, ce grand conducteur, que nous pouvons entrer dans la présence immédiate de Dieu. On a vu cela dans Hébreux 10. Ensuite, nous avons vu que pour cela, on a besoin de la foi, pour entrer dans le Dieu Saint, on a besoin de la foi, mais on a aussi besoin de la foi pour continuer notre marche ici sur la terre, comme un peuple qui sert Dieu. Et là, on a aussi le Seigneur Jésus comme ce grand conducteur qui nous conduit. Mais là, on a besoin aussi de la foi. La foi, on a vu, va ensemble avec la patience, l'endurance. Et on a vu plusieurs qualités de cette foi dans Hébreux 11, spécialement. On a vu qu'on vit par la foi. On a vu les principes de base de la foi, quatre principes de base au début du chapitre 11. On a vu la persévérance de la foi avec Abraham et les patriarches. On a vu aussi l'énergie de la foi avec Moïse et ceux de sa génération qui sont entrés dans le pays promis. Et nous avons vu notre Seigneur Jésus comme conducteur, le chef et le consommateur de la foi. Le mot chef inclut aussi la pensée qu'il est conducteur. Donc le Seigneur Jésus est notre modèle parfait par rapport à la foi. Il est venu pour courir cette course de la foi. Il a accompli, on a vu cela. Il est maintenant dans la gloire, assis à la droite du trône de Dieu. Il est déjà là. Nous sommes encore ici. Mais il va faire sûr que nous arrivons là aussi. Il est notre grand conducteur qui va nous amener là où il est maintenant dans la gloire. Mais pour cela, il va aussi permettre des épreuves. Et la dernière fois, on a vu que la foi est mise à l'épreuve. C'est le test de la foi. La foi est mise à l'épreuve. Et là, on a vu la discipline de la foi. Dieu nous discipline. C'est toujours un but positif pour nous rendre conformes à l'image du Seigneur Jésus, pratiquement, pour nous rendre plus forts comme croyants. Est-ce qu'on a besoin de ces instructions? Parce que le mot discipline veut vraiment dire instruction, une instruction qui vient de Dieu. Dieu est ici le grand instructeur qui nous enseigne. Et là, on a vu donc le principe de la discipline. On a vu que Dieu veut nous avoir comme des fils. Le Seigneur Jésus est présenté dans cet épître comme le Fils. Toute l'emphase est sur lui dans cet épître. Mais il est vrai aussi que Dieu veut avoir des fils ensemble avec lui. Lui, le premier-né d'entre beaucoup de frères. Lui, il n'avait jamais besoin de la discipline. Nous avons besoin de la discipline. Nous avons vu cela, et que Dieu nous aime. Nous sommes donc à l'école de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous discipline, qui nous reprend, même si c'est nécessaire, nous fouette. Et là, on a vu, juste rappeler, quatre attitudes différentes. On peut avoir une attitude au verset 5, qu'on méprise la discipline. C'est une bonne attitude? Mépriser la discipline? Je ne pense pas. Ou on peut perdre courage par la discipline. Ce n'est pas le but non plus. Dieu veut nous encourager. Il envoie cette discipline pour nous former, pour nous rendre plus forts. Donc il ne faut pas perdre courage. La troisième attitude que nous avons vue, c'est une bonne attitude au verset 9. C'est à la fin du verset 9, ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père des Esprits? Dieu cherche cette attitude de soumission. Et ainsi, nous allons vivre. Vivre veut dire ici dans la communion avec Dieu. En acceptant cette discipline, nous aurons la communion avec Dieu. Et la quatrième attitude, qui est le résultat de la troisième, est au verset 11, à la fin. La bonne attitude est qu'on est soumis et qu'on est exercé. Exercé par cette discipline. Et cet exercice, c'est donc un exercice de la foi, va produire quelque chose. Elle va produire le fruit paisible de la justice. À la fin du verset 11, on a vu ça. C'est quatre attitudes. Donc, que le Seigneur nous aide à développer cette bonne attitude, pas mépriser ou être écrasé, mais être soumis et être exercé pour ensuite produire ce fruit paisible. C'est donc aussi quelque chose de la foi. Et c'est pour cela que je souligne cela encore, parce que on voit maintenant au verset 12 que l'auteur s'interrompt encore dans son enseignement. Il a parlé donc beaucoup de la foi, et maintenant il arrête au verset 12, et il donne un encouragement, mais aussi un avertissement. Le verset qu'on a lu ce soir, au verset 25, prenez garde, est un avertissement. Et ainsi, en ayant parlé de la nécessité de la foi, des qualités de la foi, il a parlé aussi de la discipline par rapport à la foi. Et puis là, j'aimerais encore résumer un peu ce qu'on a vu depuis le verset 12 au verset 17, pour ensuite voir le lien avec le passage que nous avons lu ce soir. Dans verset 12 à 17, c'est la première partie de cette parenthèse. Vous vous rappelez, on a cinq parenthèses dans cette épître. Dans une parenthèse, l'auteur arrête son discours et il applique l'enseignement aux auditeurs. C'est comme quelqu'un qui présente un message, il arrête et puis fait l'application pratique maintenant. C'était chapitre 2, chapitre 3 et 4, chapitre 6, chapitre 10 et maintenant au chapitre 12. Chapitre 12, c'est la parenthèse la plus longue qu'on peut diviser en trois parties. D'abord, la poursuite de la sainteté, versets 12 à 17, et je vais résumer ce point. Ensuite, le passage que nous avons lu ce soir, comment nous sommes venus aux meilleures choses. La foi nous introduit à un nouvel ordre de choses. Sont de meilleures choses. Et on verra, Dieu voulant, la prochaine fois, chapitre 13, le début, le restant de cette parenthèse, une marche de pureté. Et l'enseignement va continuer au verset 8, ou verset 7 peut-être, ça dépend comment on divise, mais 7 ou 8, là, l'enseignement va continuer. Donc il s'interrompt maintenant au verset 12, ayant conclut donc l'exercice de la foi, et il va continuer au chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, il est l'objet de la foi, hier, aujourd'hui et éternellement. Là, il va continuer son enseignement. Et maintenant, il s'interrompt pour faire les applications. Donc d'abord, la question de la sainteté. Dieu est un Dieu saint. Et Hébreu met beaucoup d'emphase sur la sainteté. Comme l'Épître aux Romains, mais beaucoup d'emphase sur la justice de Dieu. Ce n'est pas des contradictions, mais c'est une différence en emphase. L'emphase est sur la sainteté de Dieu. Et la foi va respecter la sainteté de Dieu, va être exercée, comme nous avons vu. Là, il y avait sept dangers qui sont adressés. Je les répète encore brièvement, ces sept dangers. Le premier danger était la faiblesse, qu'on laisse aller au verset 12, mains lassées, genoux défaillants. Deuxième problème, c'est des sentiers qui ne sont pas droits. Troisième problème, même une déviation, un manque de direction à la fin du verset 13. Verset 14, nous voyons aussi un manque de paix. Donc, il faut poursuivre la paix. manque de sainteté pratique au verset 14. Mais surtout, verset 15, manque de grâce. Et ce manque de grâce va avoir des conséquences graves. Ça va produire une racine d'amertume. Donc c'est pour ça que j'ai dit, cet épître souligne beaucoup la grâce, 8 fois. La grâce est la caractéristique de ce nouvel ordre de choses que Dieu a introduit. Et si nous ne sommes pas pratiquement en accord avec cette grâce, il va y avoir de l'amertume. Et cette amertume va produire du fruit, va troubler, au lieu d'avoir la paix, va troubler, va souiller. Et là, cette amertume va aussi introduire d'autres problèmes, comme la fornication. La fornication, ici l'emphase est sur le lien spirituel avec le monde, mais ça peut impliquer aussi le côté physique. Et ça va ensemble avec Ésaü, qui est appelé profane. C'est donc un autre problème, quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour les choses de Dieu, qui extérieurement a lien avec le peuple de Dieu, comme Ésaü, mais dans son cœur, il n'a aucun intérêt pour les choses de Dieu. C'est grave, ça. Et on a vu que c'était le cas avec les Juifs dans ce temps-là, malheureusement, qui représentent cette pensée extérieurement une belle religion, même dans le temps où le Seigneur Jésus était sur la terre, les pharisiens, c'était des formes religieuses, mais il était comme Ésaü. Il n'avait aucune communion avec Dieu. Il ne cherchait pas du tout les intérêts de Dieu. Il cherchait leurs propres intérêts, juste comme Ésaü. Et ainsi, ils ont rejeté les pensées de Dieu, comme Ésaü, comme ces pharisiens l'ont fait. Et ça est un danger pour nous aussi. Ce qui est arrivé à Ésaü, ce qui est arrivé aux pharisiens, aux salutiens, ça peut nous arriver aussi. Nous ne sommes pas meilleurs. Et ainsi, nous avons donc besoin d'écouter ces exhortations, et les exhortations vont remédier les problèmes. Les exhortations sont aussi 7 en nombre, redresser, faites des sentiers droits, deuxièmement verset 13, ensuite poursuivez la paix, verset 14, quatrièmement poursuivez la sainteté, cinquièmement il ne faut pas manquer la grâce. C'est donc des exhortations, des encouragements. Et ensuite, il y a une exhortation aussi qu'il n'y ait pas de fornicateur, comme il a eu, et aucun profane. Il donne les remèdes pour cela, par la grâce, par la foi, il donne les remèdes nécessaires. Et cela introduit maintenant ce passage concernant ces deux systèmes. Donc ce que l'auteur fait ici, il place les deux systèmes, l'un représenté ici par Ésaü par exemple, l'autre représenté par la foi, l'un opposé à l'autre. Et il montre d'abord que ce système a été introduit par Dieu lui-même, mais que Dieu a maintenant introduit quelque chose de nouveau, qui est différent. C'est le même Dieu, parce que le verset 29 va conclure cela. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Le Dieu qui a parlé dans le temps de Moïse est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui. C'est le même Dieu. Mais ses méthodes ont changé. Le système qu'il a introduit a changé. Là, dans le temps de Moïse, il a introduit un système qui était marqué par 7 points, juste brièvement. Une montagne qui ne peut être touchée. C'est en contraste avec la montagne du Sion. On va voir de grands contrastes entre ces deux systèmes. Donc le premier point, une montagne qui ne peut être touchée. Deuxièmement, un feu brûlant. Pour plus de détails, vous pourriez lire Exode 19 et 20, et aussi Deutéronome 4 et d'autres passages dans l'Ancien Testament qui donnent plus de détails. Le deuxième point, un feu brûlant. Et comme la note dit qu'il était tout en feu, comme si la montagne était en feu. C'est épouvantable, une vue épouvantable. Encore pire, ce qu'on a vu la semaine passée avec les deux tours de Manhattan. À l'obscurité, troisième point, c'est aussi en même temps la façon dans laquelle Dieu s'est révélé dans l'obscurité. Même Salomon a parlé de cela lorsqu'il a inauguré le temple, il a dit que Dieu habite dans l'obscurité. C'était une façon dans laquelle la gloire de Dieu s'est manifestée, dans l'obscurité. Quel contraste avec la grâce. Aux ténèbres, quatrième point, la tempête, c'est comme un tourbillon, comme une tempête terrible, cinquième, au son de la trompette, et septièmement, la voix de parole. Il y a sept points qui représentent ce système que Dieu a introduit par rapport à la loi, par rapport à la première création, et là, c'était tellement terrible que Moïse a demandé au verset, il a dit au verset 20, car il ne pouvait supporter ce qui était enjoint. Et ensuite, au verset 21, Moïse, si terrible était ce qui paraissait, dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Moïse a été deux fois tout tremblant. La première fois, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, à Horeb, dans Exode 3, c'est pas mentionné là le mot tremblant, mais c'est mentionné dans Acte 7, dans le discours d'Étienne. Il réfère au fait que Moïse était tout tremblant lorsqu'il a vu Dieu dans sa gloire, dans cet arbuste. Mais ici, la deuxième fois, il est tout tremblant lorsqu'il voit cette grandeur de Dieu sur la montagne du Sinaï. Quel contraste maintenant, je vais juste mentionner quelques points de contraste entre Sinaï, cette montagne qui ne pouvait pas être touchée, et la montagne de Sion qu'on voit au verset 22. C'est des contrastes énormes. Même si on considère cela par rapport à l'histoire d'Israël, parce que Israël va arriver à cette montagne de Sion dans les jours à venir. Mais la montagne de Sion parle de ce que Dieu fait en grâce souveraine. Lorsque le peuple avait tout manqué, totalement manqué, sous le roi Saul, il introduit, au salut, il introduit maintenant un nouvel ordre de choses par rapport à David, le roi selon le cœur de Dieu. Et là, on voit la grâce souveraine de Dieu. Mais c'est un exemple de ce que nous avons maintenant. Nous sommes sous la grâce souveraine de Dieu. On pourrait lire Éphésiens 2 et beaucoup d'autres passages qui confirment cela. Donc, peut-être je peux le résumer ainsi. Ce qu'on voit aussi dans ce passage qu'on va voir tantôt, la citation d'Agée, il y a donc des éléments historiques qu'on peut considérer. Et ces éléments ont aussi une signification prophétique pour les jours à venir lorsque Israël sera introduit dans le millénium, dans la bénédiction, selon la grâce souveraine de Dieu. Mais ce que cette épître veut dire maintenant, nous sommes déjà venus là. Okay? Donc ce qui est futur prophétiquement pour le peuple d'Israël comme nation, qui vont aussi avoir leur montagne de Sion, nous sommes déjà venu là. Et les bénédictions du millénium que Israël va avoir dans le millénium, nous avons déjà ces bénédictions d'une façon spirituelle déjà maintenant. Ça, c'est un peu la terre. Donc, juste pour mentionner quelques contrastes, Sinaï, en contraste avec Sion, la loi qui était donné à Sinaï, en contraste avec la grâce, j'ai mentionné la grâce, qui est mentionnée 8 fois dans Hébreu. Ensuite, on peut dire aussi ce qui était Dieu, on a vu cela dans chapitre 8 par exemple, Hébreu 8 a dit ce qui, verset 13, lorsque Dieu a introduit cette nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Vous voyez des contrastes entre la première qui est devenue ancienne et la nouvelle alliance, et la conclusion à la fin du verset 13 de chapitre 8. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Donc, l'ordre vieux va disparaître. Mais à ce moment-là, lorsque cette épître était écrite, les deux étaient ensemble. Le vieil ordre était là, à Jérusalem, avec le temple, qui était encore sous l'influence de Sinaï, et le nouvel ordre était là, par rapport à Christ. Donc ainsi, ce qui est vieux, en contraste avec ce qui est nouveau. Et on revient à cela aussi un peu plus loin par rapport à cette expression d'une nouvelle alliance, un peu plus loin dans ce chapitre. Ensuite, on peut dire aussi le jugement en contraste avec la délivrance. Dieu a délivré les Juifs croyants à ce moment-là de ce système. Dieu veut délivrer les croyants aujourd'hui d'un tel système épouvantable. Et on peut dire aussi, il y a un contraste entre l'épouvante, comme même Moïse était épouvanté, et la paix que les croyants ont déjà maintenant avec Dieu. Et j'espère que chacun ici connaît et jouit de cette paix avec Dieu. C'est un grand privilège. Donc je voulais mentionner maintenant, j'ai mentionné quelques contrastes, je voulais mentionner maintenant, selon les versets qui sont devant nous, 8 points par rapport à ce nouvel ordre de choses. Le nombre 8, dans la Bible, représente un nouvel ordre de choses. Et c'est exprimé par le fait que nous sommes venus à la montagne de Sion. Donc la montagne de Sion représente cette grâce souveraine de Dieu, comme Dieu va manifester cette grâce publiquement dans le monde à venir, nous sommes venus déjà à cette montagne, un nouveau système de grâce, de la grâce souveraine de Dieu. Et on a vu aussi que par rapport à ce nouveau système, on a vu le Melchisédek, qui représente une royauté de notre ordre. Il était sacrificateur de notre ordre. On a vu cela introduit l'adoration selon un nouvel ordre. On a vu cela dans chapitre 10. Et ainsi, le mot Sion représente donc cette nouvel ordre de choses. Ça m'a frappé de voir que le nom Sion revient 7 fois dans le Nouveau Testament. La deuxième chose qu'on voit avec ce système, il est dit « à la cité du Dieu vivant ».« À la cité du Dieu vivant ». Et ça, c'est beau de remarquer. On voit juste quelques versets, parce que c'est vraiment encourageant. On a vu dans Hébreux 11, par rapport à la cité, pour la foi, il y a une cité, et Abraham a découvert cela. Hébreux 11, verset 10. « Car il attendait la cité qui a les fondements. » Là, on a vu, c'était en contraste avec Babel de ce temps-là. Babel qui était basé sur d'autres principes, qui n'avait pas ses fondements, qui n'avait pas Dieu comme architecte. Donc là, Abraham, par la foi, a vu cette cité, et maintenant, il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Ici, on a donc une nouvelle référence. Ah oui, encore 11 verset 16. Hébreux 11 verset 16. Ces croyants, ces patriarches, auraient pu retourner à leur ville d'origine. Ils n'ont pas fait. Verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelés leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, il attendait cette cité par la foi, mais c'est aussi vrai que Dieu leur, à tous ces croyants, à préparer une cité. Si c'était le cas pour les croyants de l'Ancien Testament, c'est aussi le cas pour nous. Parce qu'on a vu à la fin du chapitre 11 que les croyants de l'Ancien Testament n'atteindront pas la perfection sans nous. Donc nous aurons aussi une part dans cette cité céleste. Maintenant, au chapitre 12, verset 22, nous avons donc cette cité du Dieu vivant, qui ça va ensemble avec la cité céleste, et nous sommes venus là déjà. Ce que Abraham attendait, nous sommes venus là. Vous voyez la différence? Par la foi, nous sommes venus là, parce que l'œuvre a été accomplie, et Dieu nous a introduits dans ce nouvel ordre de choses, à cause du fait que Christ a introduit ce nouvel ordre de choses par sa résurrection, par le fait qu'il est maintenant monté dans le ciel. Nous sommes introduits dans ce nouvel ordre de choses, et ainsi nous sommes venus à la cité du Dieu vivant. Il est vrai aussi, lorsqu'on compare cela avec chapitre 13, verset 14, lorsqu'on verra à ce moment-là Christ comme le conducteur pour nous conduire en dehors du camp, Hébreux 13, verset 14, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Ce n'est pas en conflit avec 12, verset 22, que nous sommes venus à la cité du Dieu vivant, parce que là, c'est par la foi une réalité. Tandis que, dans chapitre 13, nous nous voyons sur la terre, et là, c'est encore quelque chose à venir. Nous sommes en dehors du camp, mais nous sommes encore, nous recherchons celle qui est à venir. C'est l'exercice de la foi pour être identifié avec cette cité qui va venir, qui va être manifestée publiquement. Mais par la foi, nous appartenons déjà à cette cité du Dieu vivant. Il n'est pas seulement l'architecte, mais cette cité est caractérisée par ce Dieu vivant. Tout parle de lui, le Dieu vivant. La résurrection, on peut penser à cela, la vie éternelle que nous avons reçue, c'est la cité du Dieu vivant. Et nous sommes venus déjà là. Nous avons une relation avec ce Dieu vivant. Matthieu 16, le Seigneur parle la première fois dans le Nouveau Testament de ce Dieu vivant. On trouve le Dieu vivant souvent dans l'Ancien Testament, mais on le trouve aussi souvent dans le Nouveau Testament. Et le Dieu vivant a donné son Fils. Et le Seigneur Jésus, le Père a donné cette révélation à Pierre, dans Matthieu 16, et ainsi le Seigneur a pu parler de cela, qu'il allait bâtir son assemblée sur ce roc, parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est appelé ici la Jérusalem céleste. Donc ça souligne encore que nous avons affaire avec un système céleste. Jérusalem va avoir sa place sur la terre. Et dans Apocalypse, nous voyons une chose merveilleuse. On voit la Jérusalem céleste, qui est appelée la Nouvelle Jérusalem par rapport à l'État éternel. Et nous verrons la Jérusalem terrestre dans le millénium. Et même dans l'État éternel, il y aura un lien entre ces deux Jérusalem. Le troisième point, il est dit au verset 22, à des myriades d'anges. Les anges ont eu un rôle important par rapport à la transmission de la loi. Galates et d'autres places confirment cela. Et dans ce nouveau système, nous voyons que les anges ont encore une place. On a vu aussi dans Hébreux 1 que même ces anges-là, tellement puissants, sont maintenant serviteurs des croyants. C'est incroyable. Ces anges sont vus comme envoyés par Dieu, comme serviteurs pour les croyants. Et c'est une multitude myriade d'anges, une grande, très grande multitude, qui est appelée aussi l'Assemblée universelle. C'est un mot dans l'original. Ensuite, quatrième point, verset 23, à l'Assemblée des premiers-nés. Là, nous voyons les croyants qui ne rejettent pas, comme Ésaü, les pensées de Dieu. Ésaü avait le droit de premier-né, mais il l'avait rejeté. Ici, sans inclure évidemment les juifs chrétiens à ce moment-là, mais ça implique aussi tous les croyants de cette dispensation. Donc depuis acte 2 jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il y a cette assemblée des premiers-nés. Nous sommes liés au premier-né, le Seigneur Jésus est le premier-né, et nous sommes une compagnie de premiers-nés. C'est vraiment très spécial. Ça souligne la valeur que nous avons pour le corps de Dieu. Ça souligne aussi le lien que nous avons avec le Seigneur Jésus, le premier-né. Comme j'ai dit tantôt, il est le Fils, nous sommes des fils. Il est le premier-né, nous sommes des premiers-nés. Et il est dit de cette compagnie qu'elle est écrite dans les cieux. Donc, l'assemblée des premiers-nés écrite dans les cieux. Nous sommes un peuple céleste, et nous sommes ici sur la terre. Nos noms sont écrits dans les cieux. Et ainsi, nous sommes très, très privilégiés. Selon le conseil de Dieu, nos noms sont écrits dans les cieux. On pourrait parler longuement là-dessus, mais je vais continuer maintenant avec le centre de tout cela qui habite là. C'est le prochain point. J'ai mentionné 4 points, donc on arrive au 5e. Dieu juge de tout. Dieu est le centre de tout. Et il est juge de tout. Le mot juge implique aussi la pensée qu'il règne avec justice. Un juge, on peut penser quelqu'un qui condamne quelqu'un ou qui déclare quelqu'un juste, mais ce n'est pas seulement ça qui est inclus avec ce mot juge, ça inclut aussi la pensée que Dieu gouverne avec justice. C'est lui qui habite dans cette cité du Dieu vivant. Ensuite, il est dit que nous sommes venus aux esprits des justes consommés. Sixièmement, septièmement, à Jésus. Je veux dire encore quelque chose sur les esprits des justes consommés. Nous sommes venus aux esprits des justes consommés. Parce que ces justes consommés sont encore en attente. Ils attendent encore, comme on a vu dans chapitre 11, verset 40, ils attendent la perfection jusqu'au moment où nous serons introduits dans la perfection. Mais nous sommes déjà venus à ces esprits des justes. On a vu les exemples de ces esprits des justes dans chapitre 11, plusieurs exemples. Et ainsi nous sommes dans le bien de ce que Dieu a introduit à travers ces esprits des justes consommés, qui, par la foi, appartiennent aussi à ce nouveau système. C'est un peu compliqué, mais ce que je veux dire, c'est ceci. Comme croyant, Moïse appartenait déjà à ce nouveau système de la foi. Il avait, par exemple, le privilège d'entrer dans le lieu très saint pour communiquer avec Dieu, pour recevoir les communications de Dieu. Ainsi, comme individu, comme croyant, il avait déjà une part dans ce nouveau système. Mais comme celui qui a été le chef du peuple dans les voies de Dieu à ce moment-là, il était en rapport avec un système, on a vu, qui était marqué par ces 7 points épouvantables. Et ainsi, on a vu dans Hébreux beaucoup de parallèles et des contrastes. Les contrastes sont toujours plus grands que les parallèles. Mais pour revenir à ce point-là, nous sommes venus aux esprits des justes consommés. Dans le monde à venir, ces justes auront une place d'honneur, comme on a vu dans chapitre 11. Là, ils avaient déjà une place d'honneur pour nous, comme héros de la foi, et leur récompense dans le monde à venir. Mais par la foi, nous sommes déjà venus à ces esprits des justes consommés. Le 7e point, c'est à Jésus. Nous sommes venus à Jésus, verset 24. Médiateur d'une nouvelle alliance. Okay. Deux choses ici. D'abord, le nom du Seigneur Jésus. 9 fois dans cet épître, il est mentionné avec ce nom, Jésus. Il est le Seigneur Jésus, c'est vrai, il est le Seigneur Jésus-Christ, il est Jésus-Christ, il est Christ, le Christ Jésus, mais il est appelé 9 fois Jésus, pour souligner la grandeur de sa personne. Ce Jésus qui a été jeté dehors, comme on verra dans le chapitre 13, ce Jésus a été celui en qui Dieu a trouvé son bon plaisir. Et la grandeur de sa personne est soulignée par ce nom méprisé. Il était méprisé par rapport à ce nom, mais dans cet épître, c'est un nom d'honneur. 9 fois. Et il est médiateur. Et ça me fait encore penser à ces contrastes. Si vous voulez faire ça à la maison, on a vu quelques contrastes tantôt entre Sinaï et Sion. Et ainsi, il y a des contrastes en Galates 4. La deuxième partie de Galates 4 nous mentionne. Et dans Galates, nous voyons aussi la question de médiateur. Puis là, dans Galates 4, vous allez voir les contrastes entre esclave et libre, entre la chair et la promesse, entre ce qui est vieux et ce qui est nouveau, comme aussi en hébreu, entre Sinaï et Sion, entre Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste, entre la chair et l'esprit. Beaucoup de contrastes. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est ça le point, Galates montre aussi beaucoup de contrastes, mais parle aussi du Seigneur Jésus comme le médiateur. Et ainsi, dans Hébreux 12, où nous sommes maintenant au verset 24, nous voyons Jésus comme médiateur. Il est entre Dieu et les hommes. Et c'est lui qui a introduit cette nouvelle alliance. C'est par lui que Dieu introduit cette nouvelle alliance. Il est le médiateur. Et le mot « nouvelle » ici, c'est pas seulement un nouvel ordre de choses qui représente une différence de caractère ou de nature, mais ici, le mot « nouvelle » veut dire ce qui est frais, ce qui vient de commencer. Ainsi, le Seigneur avait versé son sang à Jérusalem, qui était déchiré, le voile était déchiré, et ainsi Dieu a introduit ce nouvel ordre de choses sur la base du sang versé. Et là, le Seigneur Jésus est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Le mot alliance, on a vu plusieurs fois, ce lien entre Dieu et son peuple. Cette nouvelle alliance va être implémentée publiquement avec Israël au début du monde à venir. Jérémie 31-33 nous parle de cela et d'autres passages. Mais nous sommes déjà dans le bien de ces choses, comme nous avons vu tantôt avec Sion, prophétiquement, publiquement, c'est encore futur, mais nous entrons déjà dans le bien de ces choses. Vous êtes venus à la montagne de Sion. Et ainsi, il est dit ici, vous êtes venus à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Ça veut dire que les biens que Israël va jouir par la nouvelle alliance sont déjà nos biens. C'est vraiment merveilleux. Et à part cela, nous avons encore d'autres bénédictions qu'Israël ne va jamais avoir dans le millénium, qui sont déjà notre bien maintenant. Et ça, ce n'est pas le sujet d'Hébreu. Le 8e point, au sang d'aspersion, qui parle mieux qu'Abel. Donc, ce nouvel ordre de choses, un nouveau système que Dieu a introduit dans sa grâce, est basé sur le sang. C'est le 8e point. Le sang d'aspersion. Le sang de Christ. Et de ce sang, il est dit, ça parle mieux qu'Abel. Le sang d'Abel a demandé la vengeance. On peut voir ça dans Genèse 4. Il a été tué par son frère. Et ainsi, les Juifs avaient tué le Messie, le propre Messie, comme Caïn avait tué son frère Abel, les juifs, cette génération-là, je ne parle pas des juifs qui vivent aujourd'hui, mais cette génération-là avait crié son sang sur nous et sur nos enfants. Ils avaient tué leur propre Messie. Mais, maintenant le contraste, il y avait donc un parallèle entre Abel et le Seigneur Jésus. Il y avait aussi un contraste. Le contraste, c'est que le sang d'Abel demande la vengeance. Le sang de Christ a été aspergé en grâce et ce sang parle mieux. Ce sang introduit maintenant ce nouvel ordre de choses. Et par rapport à ce sang, Christ parle encore. Il parle maintenant du ciel. Et voilà l'importance de l'avertissement qui va suivre maintenant. Si c'est vrai que ce sang parle mieux, ça veut dire aussi que celui qui a donné son sang, il parle maintenant. Il a commencé à parler dans Acte 2 d'une nouvelle façon. Il est maintenant dans la gloire. Il a parlé aux Juifs dans les évangiles. Ils l'ont rejeté. À la croix, le Seigneur Jésus a prié, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et maintenant, il parle encore. On voit cela dans Acte 2 jusqu'à Acte 7. Il a parlé à toute la nation. Et les chefs l'ont rejeté. Mais il a continué à parler. Saul de Tarse l'a rencontré. Il parle encore. Et il parle encore aujourd'hui. Il parle aux gens qui ont perdu de leur parenté dans cette attaque à New York. Il parle encore en grâce à beaucoup aujourd'hui. C'est celui qui parle encore. Et maintenant le point. Si les gens avaient refusé celui qui parlait en jugement, qui parlait par rapport à l'introduction du vieux système, Dieu parlait à ce moment-là. Et s'ils l'ont refusé, comment, et c'est ça le raisonnement maintenant, ils échapperont si on rejette celui qui parle maintenant en grâce. On a la tendance de penser, ok, si Dieu parle en grâce, c'est moins solennel, c'est moins sérieux. Non, c'est encore plus sérieux. Parce que Dieu a parlé en jugement, ils l'ont rejeté, il a parlé par rapport à ce système de la loi, un système épouvantable. Maintenant, Dieu parle en grâce, et si on rejette ce Dieu qui parle en grâce, si on rejette Christ dans la gloire, comme les Juifs, comme nation ont fait dans Actes 2 à 7, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il y aura après le jugement? Si on refuse à écouter celui qui parle en grâce maintenant, il y aura le jugement. Et son raisonnement est, si ceux-là n'ont pas échappé, qui a parlé donc dans le temps de Moïse, et qui refusèrent celui qui parlait en oracle sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux? Maintenant, il faut faire attention. L'auteur, je pense l'apôtre Paul, il s'inclut maintenant à ses compagnies. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons? Ça veut dire donc, il se place à côté de ces croyants hébreux à ce moment-là, qui étaient en danger de retourner dans le judaïsme, de faire la même chose que Ésaü avait fait, vendre son droit de premier-né. Ils étaient en danger de faire ça. Et son point est maintenant, si vous faites ça, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux? Si on rejette la grâce du Seigneur Jésus qui parle maintenant du ciel, ça veut dire le jugement. Et ce jugement est venu dans l'an 70, lorsque Jérusalem et le temple ont été détruits. Mais ce jugement va venir encore dans la grande tribulation aussi, et c'est là où c'est intéressant de voir le lien avec ce qui suit, au verset 26. Duquel la voix ébranla, donc quelle puissance il y a dans cette voix. Cette voix a parlé et elle a ébranlé alors la terre. Si Dieu parle, qui fait ébranler la terre. C'était dans le passé. Mais maintenant, il a promis, disant, encore une fois, je secourrai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est une citation de Agée qui a parlé lorsque le deuxième temple était en train d'être reconstruit. Et là, il parle pour encourager les Juifs à ce moment-là, pour continuer ce travail. Et il parle aussi des jugements qui vont venir, pour introduire donc le monde à venir. Lorsque ce temple sera reconstruit selon les instructions d'Ézéchiel, avant que ça arrive, encore une fois, je secourrai non seulement la terre, mais aussi le ciel. En jugement, Dieu va faire ça. Ça, c'est le contexte direct d'Agée. Mais il y a aussi des applications. On peut dire que cela a eu lieu dans l'année 70, en principe. Et les choses qui sont passées la semaine passée nous font, nous montrent comment c'est grave si Dieu secoue. Les choses ont secoué, mais pas l'intervention de l'homme, c'est pas, mais Dieu l'a permis. Et là, on peut s'imaginer un peu comment c'est grave si Dieu intervient en jugement et secourait non seulement la terre, mais aussi le ciel en jugement. Et ça fait penser maintenant aussi à la fin du millénium, lorsque Dieu va encore, on peut voir ça dans 2 Pierre 3, lorsque les cieux et la terre passeront par le feu, lorsque Dieu va introduire ce nouveau, cet état éternel. Mais le point est maintenant que dans ce passage, nous appartenons déjà à quelque chose qui est éternel. C'est pour ça qu'on verra dans chapitre 13, une alliance éternelle. Nous appartenons déjà à un ordre de choses qui est éternel, que Dieu a déjà introduit. Mais ceux qui rejettent cette grâce, ils s'exposent au jugement maintenant, comme dans l'année 70, ou dans la grande tribulation, ou après le millénium. Verset 27 indique le changement des choses nouvelles. Les chrétiens, les juifs chrétiens, avaient expérimenté ça. Ils avaient changé d'ordre de choses. Les choses nouvelles, par rapport au judaïsme, ils avaient laissé en arrière, et ils étaient introduits maintenant, ils étaient venus à ce nouvel ordre de choses comme nous avons vu. Et nous aussi, nous sommes venus à ce nouvel ordre de choses où les choses sont immuables par rapport à Christ. Les choses sont éternelles. Nous appartenons déjà à cette nouvelle création, à ce nouvel ordre de choses où les choses sont éternelles. Comment nous sommes bénis? Verset 28. C'est pourquoi, maintenant une conclusion, donc un avertissement, prendre garde, verset 25. Et maintenant encore une conclusion. Recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce. Notons bien. Nous appartenons à un système qui est marqué par la grâce et nous avons maintenant une grande responsabilité, notamment à retenir cette grâce. Par laquelle nous servons Dieu. D'une manière qui lui soit agréable. C'est beau. Le Seigneur Jésus est le ministre du sanctuaire. Il sert Dieu. Mais nous servons maintenant, par la grâce, ce Dieu. Et Dieu cherche que nous servions d'une manière qui lui soit agréable. On verra cela aussi dans le chapitre 13, verset 21. Pour faire sa volonté, faisant en vous, il opère en nous ce qui est agréable. Donc Dieu veut que nous puissions être en accord avec lui pour servir ce Dieu. Ici, c'est par rapport à l'adoration, premièrement, mais aussi pour vivre d'une façon qui soit agréable devant lui, avec révérence et crainte. Ces deux mots sont très intéressants. Révérence, c'est le même mot qu'on a piété dans chapitre 5, verset 7. Le Seigneur Jésus était marqué par cette révérence, par cette piété lorsqu'il était sur la terre. Et maintenant, Dieu veut que nous soyons marqué par cette piété, par cette révérence. Et la deuxième expression avec crainte, en anglais, on a un beau mot pour ça, awe. C'est avec ce grand respect, c'est une crainte de révérence. Et la conclusion continue encore avec cette constatation, verset 29. Car aussi, notre Dieu est un feu consumant. J'ai dit tantôt, Dieu n'a pas changé de caractère. Il est le même Dieu. Et envers ceux qui rejettent ses pensées dans le passé, il a montré qu'il est un Dieu qui est un feu consumant. On peut penser à ce qui est passé avec les fils d'Aaron, par exemple, ou d'autres occasions, Corée et sa compagnie ont été consumés par ce feu. Mais nous avons affaire avec le même Dieu. Les standards de la sainteté de Dieu n'ont pas changé lorsqu'il a introduit cette grâce. Cette grâce maintient encore davantage les standards de la sainteté de Dieu. Et ainsi, cette conclusion que nous sommes pour recevoir un royaume inébranlable et que nous devons retenir la grâce va ensemble avec ce caractère de Dieu. Dieu est lumière, Dieu ne peut pas compromettre ses standards. Et on a, comme j'ai dit, on a la tendance, quand on parle de la grâce, de penser que Dieu compromet un peu ses standards. Jamais. Il est un feu consumant. Donc, nous sommes avertis ici d'être en accord pratiquement avec ce Dieu qui maintient ses standards élevés. Et quel privilège que nous avons vu que Dieu nous a introduit déjà dans un tel système où nous sommes dans sa présence, où il nous montre cette grâce souveraine, où il nous met ensemble avec le Fils, etc. Nous sommes très bénis. Peut-être j'ai oublié quelque chose ou qu'il y a un point que vous aimeriez encore toucher un peu. Évidemment, c'est juste un aperçu qu'on a fait ce soir, mais c'est vraiment un chapitre difficile, mais aussi encourageant de plusieurs façons. Oui, donc le point, c'est un bon point que le premier-né a aussi un double droit. Et ainsi, nous avons comme premier-né un double droit, une double bénédiction.
À lui, ainsi, nous avons été aussi déjà héritiers.
Oui.
D'autres points, si j'ai bien compris, il y a des pensées, la chevetane terrestre et céleste. Et terrestre, vous venez d'autre, parce qu'il y a une autre terrestre, pas céleste. Et aussi dans l'éternité,
qu'on voit dans Apocalypse 21 par rapport à l'état éternel, peut-être on peut juste tourner là, nous voyons la nouvelle Jérusalem au verset 2, donc là on parle de l'état éternel. On ne parle pas de la parenthèse qui est donnée plus tard pour donner plus de détails sur Jérusalem pendant le millénium, parce que là, je veux mentionner cela aussi, au verset 10, au milieu du verset 10, il me montra la sainte cité, Jérusalem. Là, elle n'est pas mentionnée Nouvelle Jérusalem, mais la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Là, c'est la cité céleste pendant le millénium. Et là, elle aura donc un lien avec la terre, par les portes, les 12 portes qu'on voit, et aussi en lisant le restant de ce chapitre jusqu'au début du chapitre 22, verset 5, nous voyons beaucoup de détails, comment il y a un lien entre la terre et le ciel. Par exemple, verset 26, « On lui apportera la gloire et l'honneur des nations. » Ça, ça vient de la terre. Donc il y aura un lien entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Il ne donne pas tous les détails concernant la Jérusalem terrestre, parce que ces détails-là, on a dans les prophètes, comme Zacharie 14 et d'autres passages. Maintenant, pour ta question, pour revenir au verset 2, Apocalypse 21, verset 2, « Je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. » Donc je dois avouer que là, dans ce contexte-là, il n'est pas mentionné la Jérusalem terrestre. Donc là, il faut que je me corrige, c'est pas mentionné simplement. Et pour moi, c'était juste un raisonnement. La fonction que Jérusalem va avoir dans le millénium, avec le lien avec la Jérusalem céleste, peut-être ce sera aussi le cas dans l'état éternel. Mais ce n'est pas mentionné comme ça. Il est simplement dit que l'habitation de Dieu est avec les hommes. Point final, c'est tout. Donc là, tu as raison, il n'y aura pas cette fonction, la même fonction du Jérusalem terrestre qu'elle va avoir dans le millénium. On ne voit pas ça ici dans l'état éternel. Et pourquoi pas? Parce que là, il a dit, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Là, les différences entre les nations ne seront plus là. Comme ce sera le cas dans le millénium, ce ne sera plus le cas dans l'état éternel. Donc dans ce sens-là, Jérusalem n'est pas mentionné. Mais peut-être que Jérusalem aura quand même une place, mais pas comme dans le millénium. Mais ça, c'est toujours par rapport au millénium.
Voilà. Mais dans l'éternité,
c'est ça, c'est pas mentionné. Et ainsi, moi j'ai des amis juifs qui mettent beaucoup d'emphase sur le fait que dans l'alliance, Dieu était une alliance éternelle, donc c'est aussi pour l'état éternel.